Bonjour à tous et à chacun, à toutes et à chacune. Christophe Julien pour vous accueillir dans cette édition de rentrée de l'émission Ensemble. En régie, vous reconnaîtrez la patte de Simon Martin. Fondée par la loi du 2 juillet 1996, la Fondation du patrimoine est un organisme privé indépendant, à but non lucratif, il convient de le préciser, dont la vocation est de défendre et de valoriser un patrimoine en voie de disparition, non protégé par l'État en particulier, mais pas seulement le patrimoine rural, disons pour faire court le patrimoine de proximité. La Fondation du patrimoine fête cette année son 20e anniversaire. Il convenait de saluer cet événement à l'approche des Journées européennes du patrimoine qui cette année auront lieu les 17 et 18 septembre. Pour nous parler de la Fondation du patrimoine, son délégué départemental Henri Réau et sa déléguée départementale adjointe, tout cela pour l'Eure-et-Loire bien sûr, Léa Trouillou, bonjour Henri et Léa.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, la Fondation du patrimoine n'est pas forcément bien connue du grand public et c'est dommage car bon nombre de nos lavoirs, cloches d'église et autres pigeonniers lui doivent d'avoir survécu à la ruine qui les menaçait. Alors, je le disais à l'instant, la Fondation est née il y a 20 ans. Pour répondre à quel besoin au juste et qui est à l'initiative de cette création?
Alors, en Eure-et-Loire, l'initiative a été tout simplement une demande du responsable régional, qui était M. de La Rochefoucauld à l'époque, qui cherchait un délégué pour essayer de rénover ou de prendre les dossiers de l'Eure-et-Loire en main. Au départ de cette fondation, elle a été créée uniquement pour les besoins de rénovation du petit patrimoine privé et rural, c'est-à-dire qu'on ne peut pas agir sur une ville comme Chartres. On rénove les maisons qui ont plus de 100 ans, avec un caractère patrimonial, mais comme vous en avez parlé, les lavoirs, tous les deux dans le domaine public, mais ça c'est depuis 2025.
Depuis 2005.
Voilà. Alors au départ, ça a été que de la rénovation du patrimoine privé, ce qui permettait, et ce qui permet toujours, aux gens qui souscrivent un label, c'est sous forme d'un label qu'il faut accepter. Donc ce dossier va être contrôlé par les ABF, par beaucoup de monde. Et s'il est accepté, la personne qui sera labellisée aura droit à une déduction fiscale de 50% du montant de ses travaux.
Oui, on entrera dans le détail, voilà. Savoir les critères d'éligibilité très
voilà,
exactement.
Ce qui est surtout important, c'est effectivement de comprendre que la Fondation du patrimoine a été créée justement pour aider à la sauvegarde du petit patrimoine qui n'avait aucune autre aide.
Ouais. Alors, j'ai entendu donc tout à l'heure, enfin à l'instant, que vous n'aviez pas le droit d'intervenir à Chartres. C'est-à-dire par exemple les lavoirs de Chartres en Basse-Ville. Vous n'aviez pas le droit de les aider là.
Si.
Alors à l'origine, effectivement, c'était uniquement pour des bâtiments en milieu rural. Et puis ça s'est un petit peu étendu. Donc dans Chartres, on aurait le droit d'intervenir sur les lavoirs parce que ce n'est pas un patrimoine qui est habité.
Voilà.
Donc le patrimoine non habitable, il n'y a pas cette restriction du nombre d'habitants. Sinon, les critères. Donc, bon, peut-être pour finir rapidement sur l'organisation de la Fondation du patrimoine. Donc, il y a un bureau national qui est à Paris, et ensuite c'est subdivisé donc en fondation régionale, de nouveau subdivisé en fondation départementale. Donc, pour le département d'Eure-et-Loire, nous dépendons bien sûr de la région Centre. Et en Eure-et-Loire, nous sommes 3 donc bénévoles. Hein, il faut insister là-dessus. Les délégués sont des bénévoles. Et nous nous sommes répartis. Henri Réau a été seul pendant plusieurs années. Et puis depuis un petit peu plus d'un an, nous sommes 3 maintenant délégués en Eure-et-Loire. Donc nous nous sommes répartis le territoire, en fait, selon notre lieu d'habitation. Donc Henri a la Beauce, tout la moitié sud du département, parce que voilà, c'est là-bas qu'il habite. Donc Henri est le délégué départemental. Ensuite, nous avons François Lemone, qui n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il n'est pas encore rentré de vacances, mais qui s'occupe, lui, du nord du département, puisqu'il habite Dreux. Et puis, donc moi, je m'occupe de Chartres et la région de Chartres et le Perche, parce que j'habite Chartres.
Et le job consiste en quoi?
Alors, notre job, il consiste à aller voir les projets, à déterminer s'il est acceptable ou pas acceptable, si on peut monter un dossier, ne pas monter un dossier, et surtout conseiller les gens dans la réhabilitation qu'ils vont avoir à réaliser. Il est certain que la réhabilitation peut des fois coûter un peu plus cher que si la personne fait les travaux sans notre aide, mais l'aide de la Fondation du patrimoine est justement là pour compenser, ouais. pour essayer de conserver le patrimoine tel qu'il était.
Alors, ce sont les gens qui viennent vous voir, ou est-ce que, je sais pas moi, est-ce que par exemple vous arpentez soit Chartres, soit la campagne Beauceronne ou François Le Monde à Dreux, puis vous voyez quelque chose qui est beau mais qui est en mauvais état, vous pouvez aller voir le propriétaire et lui dire.
On pourrait, mais généralement ce sont quand même les gens qui viennent nous voir. Hein. Ouais. Donc pour peut-être que le public finisse de comprendre l'organisation de la fondation, je vais peut-être vous parler rapidement de nos moyens d'action.
Absolument.
Donc nous avons les labels, donc qui concernent les particuliers, donc un particulier qui a donc effectivement une maison ou un lavoir ou etc. donc peut prendre contact avec nous. À ce moment-là, il aura un dossier à monter. Donc nous, notre job, comme vous dites, ce sera d'aller voir sur place si ce bâtiment est éligible. Donc il y a quelques critères très simples. Donc il faut que ce soit en milieu rural si c'est un patrimoine habité. Il faut qu'il ait, bien sûr, le premier critère, c'est l'intérêt patrimonial. Ensuite, il faut que ce soit visible de la voie publique, puisque comme il y a des compensations, ça ne peut pas servir uniquement à un but particulier. Et bon, enfin, grosso modo, ce sont ça les principaux critères. Donc ça, c'est quand on travaille avec les particuliers. Et ensuite, on a aussi la souscription qui, là, en revanche, va nous permettre de travailler avec des collectivités. Et puis ensuite, on a des petites choses annexes aussi, comme des produits partage, comme des... voilà, mais enfin, qui sont moins importantes. Les deux axes principaux de la Fondation du patrimoine, c'est quand même le label et la souscription. Oui. Et donc le label, comme le disait Henri, donc nous, on va déjà faire une première sélection sur place. Ensuite, donc, le dossier sera rempli par le propriétaire qui a fait l'appel à nous. Et ensuite, nous aurons l'obligation d'avoir la caution de l'ABF, de l'architecte des bâtiments de France, hein, donc le service départemental.
Se déplace.
Voilà, du patrimoine. Donc, il leur arrive de se déplacer, de venir voir sur place. Et c'est que quand on a l'aval de l'ABF, qu'à ce moment-là, le dossier pourra être accepté.
Ouais. Alors, quand on parle de patrimoine de proximité, c'est effectivement chose très large. Hein. Un pigeonnier, ça peut être un patrimoine de proximité.
Tout à fait.
Quand on dit un patrimoine intéressant, ça veut dire quoi au juste, en fait? Il est intéressant. Pourquoi on décide de le sauver plutôt qu'un autre?
Alors déjà, il y aura probablement un critère d'ancienneté, encore que on peut maintenant attribuer un label pour un patrimoine du XXe siècle s'il a vraiment un intérêt très particulier. Mais ce sera surtout son intérêt historique. Et quand on parle d'intérêt patrimonial, bah c'est son aspect, son mode de construction, le fait qu'il soit typiquement bosseron, typiquement percheron, voilà. Et effectivement, ça s'étend bien au-delà d'une simple maison d'habitation, parce que ça pourrait être, comme vous l'avez dit, un lavoir, un moulin, une grange, voilà, ouais. Toutes sortes de choses.
Voire même, je crois que en ville, certains immeubles, s'ils sont situés dans des quartiers préservés, peuvent bénéficier, je crois, de la Fondation du patrimoine, me semble-t-il, si j'en crois Wikipédia. Hein.
Vous avez raison.
Les immeubles en ville, on n'en a pas fait sur Chartres. Il faut avoir le label AVAP, c'est-à-dire qu'il faut que la ville ait fait un dossier. Ah. Bon. Voilà, mais en ville, on peut par exemple, une ancienne usine, une chose comme ça, on peut l'aider. Ce n'est pas habitable, et ça, on peut conserver le...
Oui, un patrimoine industriel, voilà. Finalement, ça fait partie du patrimoine.
C'est ce qu'on vous disait. Donc, si c'est en ville, il faut que ce soit un patrimoine non habité, non habitable. Ouais. Sauf, effectivement, comme vous le soulignez tout à l'heure, les ZPPAU, les AVAP sont des exceptions. Donc, une ville qui dispose d'une ZPPAU ou d'une AVAP, effectivement, les bâtiments même habités qui font partie de ce secteur pourront bénéficier du label. Ouais. Et donc ça va changer un petit peu avec la nouvelle loi du patrimoine, puisque les ZPPU, les AVAP n'existeront plus et seront transformés en autre chose. Mais bon, là, on s'adaptera en fonction de la nouvelle législation.
On écoute un peu de musique et on se retrouve dans quelques minutes. Voilà, Nous venons d'écouter un peu de musique. Je vous rappelle que l'émission Ensemble vous est aujourd'hui présentée par Christophe Jubien. C'est Simon en régie technique. Je reçois Léa Trouillou et Henri Réau de la Fondation du Patrimoine en Eure-et-Loire. Nous voyons depuis quelques minutes ce qu'est la Fondation du Patrimoine. Ça dit quelque chose à tout le monde, la Fondation du Patrimoine, mais on ne sait pas forcément que ça peut nous venir en aide. Vous nous l'avez dit, si on est possesseur, d'un vieux moulin, d'un lavoir, même d'une grange, je crois d'ailleurs. Hein. Une grange, ça peut faire partie de...
Tout à fait. Voilà. Un corps de ferme, ça va, tout à fait. Ça évite de casser des portails, ça évite de laisser partir du patrimoine qui nous regarde depuis peut-être 500 ans, même des fois plus. Ouais. Et on a des gens attachés à ça, et de plus en plus d'ailleurs, de gens qui se déplacent, qui viennent habiter à la campagne et qui veulent sauvegarder le patrimoine.
On voit beaucoup ça dans les associations de sauvegarde, par exemple, d'une église. Il y a beaucoup de, pour employer un terme pas forcément très agréable, mais typiquement bosseron, beaucoup d'accourus parmi les gens qui souhaitent donner la main à ceux qui souhaitent.
Alors, pour ce qui est des églises, ou disons du patrimoine communal, si on veut prendre par là, on n'agit que depuis 2005, et en fait, ça a été suite à la tempête de 99, il y a eu énormément de ces bâtiments, églises ou autres, beaucoup abîmés. Et les maires ou les communes ont demandé des subventions à droite, à gauche, conseil régional et tout ça. Et la région, notre région, la région centre, a décidé d'allouer une somme d'argent relativement importante à l'époque, pour sauver ces bâtiments, pour essayer d'aider à sauver ces bâtiments, mais sous réserve que justement les gens de la commune soient intéressés au projet. Et c'est là qu'on a inventé la souscription. Donc aujourd'hui, on agit donc par le label d'un côté et la souscription de l'autre. Et la souscription, il faut que les gens de la commune, ou disons les habitants des alentours, souscrivent un montant pour que ça déclenche la subvention du conseil régional.
D'accord. Et c'est un montant qui est important ?
Alors, c'était à l'époque, c'est toujours à peu près la même chose, mais un peu différente, mais c'était 5% du montant total. D'accord. C'est-à-dire un budget, par exemple, d'une rénovation de 300 000 euros, il fallait trouver 15 000 euros dans la commune.
Voilà, c'est aide-toi, la Fondation du Patrimoine t'aidera, quoi.
Comment ?
Je dis, c'est aide-toi, la Fondation du Patrimoine
t'aidera. Voilà, c'est ça, c'était une décision de la région. Et à l'heure actuelle, il n'y a plus que deux régions en France qui soutiennent la Fondation du Patrimoine, depuis les restrictions budgétaires et tout ça. Et la région centre reste un soutien.
D'accord,
c'est embêtant. Elle reste un soutien, mais bon, les budgets ne se sont pas développés à la cadence des rénovations. On est quand même, en Eure-et-Loire, à l'heure actuelle, à 100 rénovations d'églises, dont certaines ont des budgets d'1 million, 1,5 million. C'est quand même pas rien.
D'accord. Attendez, 100 restaurations d'églises auxquelles vous avez participé ?
Oui.
Oui, sous la forme de souscription. Parce que donc, effectivement, la souscription, c'est comme un petit peu comme vous le disiez. Bon, il faut céder soi-même, mais c'est quand même un outil qui peut être très, très important pour une collectivité, parce qu'on leur met à disposition un outil qui est déjà très bien programmé. Bon, il y a un site internet, c'est la Fondation du Patrimoine qui va faire les reçus fiscaux pour les donateurs. C'est vrai que quand il s'agit d'une petite commune qui a une église à rénover, c'est déjà quelque chose de très lourd pour cette commune. Et là, on leur apporte en fait un cadre tout fait. Donc, ils ne sont pas obligés de monter une association qui soit reconnue de la loi 1901 pour avoir les reçus fiscaux. À partir du moment où ils font appel à nous, ils ont un outil de travail qui est déjà prêt. Et puis sinon, on est un petit peu brouillon, mais on vous parlait du label tout à l'heure, donc peut-être que les gens qui pourraient être intéressés par ça se demandent à quoi ça sert, à quoi ça leur sert, parce qu'on leur a dit toutes les contraintes par lesquelles ils devaient passer pour que leur dossier soit accepté, etc. Mais ils ont évidemment une contrepartie qui est la déduction fiscale. Oui. On aurait dû commencer par là, peut-être, pour expliquer ce que c'était que le label, parce que je pense que c'est ça qui est quand même assez intéressant. Donc, les gens qui obtiennent donc le label de la Fondation du Patrimoine seront autorisés à déduire 50% du montant de leurs travaux, de leurs revenus.
Quel que soit le patrimoine, hein,
quel que soit le patrimoine, à partir du moment où le label a été accepté par la Fondation du Patrimoine. Ouais. Et donc, par le biais aussi de l'ABF, enfin voilà, c'est une garantie de, de qualité de travaux, et en compensation, ils ont droit effectivement à cet avantage fiscal. Et donc la Fondation du patrimoine est la seule association qui puisse faire bénéficier comme ça d'avantages fiscaux. On ne l'a pas dit au début, mais la Fondation du patrimoine est quand même la première organisation privée en France qui est dédiée à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine de nos régions, hein, avec un volume donc de montant de travaux qui n'a aucune commune mesure avec les autres associations qui travaillent un petit peu dans le même sens. C'est une association.
Ouais. Vous êtes missionné quand même par l'État aussi, c'est-à-dire que l'État a l'œil, non, un peu sur ce que vous faites.
Oui, beaucoup même. Beaucoup. Parce que du fait de la déduction fiscale, on a un dossier fiscal.
Bien sûr, des obligations.
Si la fin des travaux, les délégués, Madame Trouillot ou moi-même, on va voir si les travaux ont été réalisés tels que l'ABF l'avait décidé, enfin disons avec... Parce que c'est quand même fiscal. Il ne faut pas qu'on accepte un dossier si la personne n'a pas respecté... Le dossier. Ouais. Mais je voudrais rajouter aussi pour les labels, il n'y a pas que les gens qui payent l'impôt qui ont droit au label. On a aussi le label non fiscal. C'est-à-dire le label non fiscal, la personne va faire ses travaux, elle ne paye pas d'impôt, mais on lui allouera une subvention de 15% si le bâtiment est habitable et une subvention de 30% si le bâtiment n'est pas habitable.
Pas habitable.
Malheureusement, les réductions budgétaires...
C'est ce que j'allais vous dire.
On a été obligé de mettre des plafonds.
Oui. Hein,
alors qu'au départ de la Fondation, il n'y avait pas de plafond.
Oui. J'imagine que les obligations sont de plus en plus draconiennes de la part de l'État, non? On sait très bien que les dotations de l'État baissent considérablement.
Voilà, donc effectivement, le budget global de la Fondation du patrimoine, comme dans beaucoup de domaines, baisse un peu aussi. Donc on essaie de s'adapter. Voilà. Donc bien sûr que ceux qui bénéficient de labels ont évidemment une obligation donc, de travaux bien faits dans les règles de l'art et à l'ancienne, en fait. Ouais. Hein, pour résumer, c'est ça qu'on pourrait dire. Donc il peut arriver que finalement il n'y ait pas tellement d'intérêt financier pour le propriétaire, parce qu'on va peut-être lui demander de faire des travaux qui lui coûteront un peu plus cher. Par exemple, un mur de clôture, on n'acceptera pas qu'il soit refait en parpaing enduit, il faudra qu'il soit refait en pierre. Mais avec les déductions fiscales pour les labels fiscaux, ce qui sont quand même la majorité, peut-être qu'il aura dépensé plus d'argent, mais il aura rattrapé ça avec sa déduction fiscale. Et finalement, pour une dépense équivalente, il aura quelque chose de beau et qui pourra encore perdurer pendant des décennies ou des siècles.
Ouais. Alors, il y a un autre aspect très intéressant de votre travail, c'est que finalement, vous participer au développement économique. Parce que pour faire les restaurations, il faut faire appel à une entreprise. Vous n'êtes pas les entrepreneurs, vous, hein, à la Fondation du patrimoine. Donc vous faites appel à des entreprises et vous faites travailler les gens. Non, c'est important, ça.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis des entreprises... Bon, alors on n'est pas du tout... Les propriétaires ne sont pas du tout obligés de prendre des entreprises qui sont agréées monuments historiques ou des choses comme ça. Hein. Bien sûr, il faudra un entrepreneur... local qui sache juste faire correctement son travail. Mais c'est vrai que vous parliez tout à l'heure de ce que pensaient les Français du patrimoine, et à l'occasion des 20 ans, donc la Fondation du patrimoine a lancé une grande enquête sur les Français et leur patrimoine de proximité. Et donc ça a confirmé le fait que les Français étaient très très attachés à leur patrimoine, et pas seulement donc à leur gros patrimoine Chambord, Versailles, etc., mais très attachés aussi à leur petit patrimoine de proximité. Hein. Je ne vais pas vous embêter tout le monde avec beaucoup de chiffres, mais donc dans ce sondage, il ressort que 67% des Français pensent qu'il y a urgence à protéger, entretenir, restaurer le patrimoine de proximité. Et effectivement, pour les Français, ce petit patrimoine, donc, qui était peut-être déconsidéré il y a quelques décennies, mais auquel les gens sont de plus en plus attachés, les Français pensent qu'il fait vraiment partie intégrante de leur identité culturelle, de la transmission, de la mémoire. Ils estiment aussi que, comme vous le disiez, c'est un enjeu touristique et économique important. Ils pensent que ça participe aussi de l'utilité sociale et culturelle, et enfin que c'est un des moyens d'action du rayonnement de la France dans le monde,
ouais.
Tout simplement.
J'en reviens aux églises, par exemple. Parmi ceux qui militent pour la restauration des églises dans les communes, ce ne sont pas forcément les paroissiens, pas du tout. Ce ne sont pas forcément des croyants, ce sont des gens qui tiennent à ce que leur patrimoine continue d'exister.
Absolument, absolument. Quand on lance une souscription, bon, bah, il y a évidemment beaucoup de donateurs qui sont des gens de la commune, qui sont des gens qui peuvent y avoir une résidence secondaire, mais ce sont des gens de toutes sortes. Et bien sûr que quand il s'agit, dans le cas précis d'une église, il n'y a pas uniquement les croyants et les pratiquants. C'est bien certain qu'une église fait partie du patrimoine pour tout le monde, enfin, tous les gens du village, même ceux qui n'y vont pas à la messe. Ouais.
Alors, on comprend que la Fondation Patrimoine peut mettre la main à la poche le cas échéant. Alors, moi, je vous pose la question, quelles sont vos sources de financement à vous ? Ah. Est-ce que vous êtes vous-même subventionné ? Oui.
On n'est pas subventionné, mais on bénéficie de mécénat. C'est-à-dire que la Fondation du Patrimoine a quelques mécènes importants au niveau national, entre autres Total, Crédit Agricole, AXA, CGPM, enfin bref, plusieurs grosses sociétés qui tous les ans mettent un budget à la Fondation du Patrimoine. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on avait aussi les successions vacantes. Ça, c'était une allocation.
Nous l'avons toujours, Henri.
Oui, ça, on l'a toujours.
Ça, le montant a diminué, alors, mais nous l'avons toujours. C'est une des sources de financement les plus importantes.
C'était la source de financement la plus importante.
Que sont les successions vacantes ?
Les successions vacantes, c'est tout simplement les gens qui décèdent et qui n'ont pas d'héritier. Les biens de ces gens-là venaient dans un fonds, et le fonds était attribué à concurrence de 12 millions, je crois, ou à la Fondation du Patrimoine, au niveau national, je parle. Malheureusement, conjoncture aidant, l'an dernier, ce fonds a baissé de 27%, et en 2016-2017, ça va.
On s'attend à ce qu'il baisse encore un peu, mais il ne faut pas être trop pessimiste.
Il ne faut pas être trop pessimiste.
Mais en fait, ça a été quand même un gros coup pour la Fondation. Oui. Bon, comment enfin, on s'est récupéré, ben on a augmenté nos frais de gestion, on a augmenté. Parce qu'on fait quand même. On prend quand même quelques frais de gestion pour les dossiers réalisés.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que nous sommes bénévoles, mais on a quand même des permanents. Pour la région Centre, on a deux permanents. Un basé à Orléans et un autre basé à Tours. C'est eux qui gèrent nos dossiers. C'est-à-dire, nous, on monte les dossiers, mais après, c'est eux qui
les... Ils s'occupent de tout le côté administratif.
Côté administratif, et c'est quand même pas rien.
On va écouter quelques notes de musique, et après, on reviendra peut-être sur concrètement ce que vous avez fait depuis quelques années en Eure-et-Loire. Quelles sont les choses dont vous êtes peut-être les plus fiers, pourquoi pas ?
D'accord.
Ensemble et de retour, émission de rentrée, Christophe Jubien au micro, Simon Martin en régie. Nous parlons de la Fondation du Patrimoine en Eure-et-Loire, en compagnie de Henri Réau qui en est le délégué départemental et de Léa Trouillou qui en est la déléguée départementale adjointe. On a compris que vous répartissiez, vous étiez trois, seulement trois pour l'Eure-et-Loire. Vous répartissiez donc le travail. Et si on parle de la Fondation du Patrimoine, c'est évidemment à l'occasion du 20e anniversaire. Il y aura peut-être d'ailleurs des choses, Léa, il y a peut-être des choses et des festivités qui sont prévues à l'occasion de ce 20e anniversaire, des événements ?
Oui, absolument. C'est un petit peu pour ça qu'on est là en ce moment plutôt que... Voilà, donc cette année, comme la Fondation existe depuis 1996, donc nous fêtons nos 20 ans. Donc à cette occasion, il va y avoir des manifestations nationales, comme une grande exposition de photos sur de réalisations faites en collaboration avec la Fondation du Patrimoine sur les grilles du Jardin du Luxembourg, avec la sortie d'un livre aussi, donc qui nous montrera donc les plus belles réalisations faites par la Fondation du Patrimoine, donc dans la France entière. Et nous sommes assez fiers parce que l'Eure-et-Loire aura sa photo. Il y a une de nos réalisations qui a été sélectionnée donc au niveau national. Il s'agit de la restauration des cloches de l'église de Frazé. Voilà. Et puis ensuite, au niveau régional, nous avons aussi une cérémonie qui va avoir lieu bientôt au château de Chambord. Et ce qui nous intéresse davantage, au niveau départemental, nous allons fêter nos 20 ans, nous, au musée des Beaux-Arts de Chartres, le 7 novembre.
D'accord. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là ?
Alors, ce jour-là, nous allons tout simplement remettre les labels, ce qu'on appelle le dossier label, des labels réalisés en 2015. Et les souscriptions réalisées en 2015. Donc tous les récipiendaires sont convoqués invités auxquels on remettra la plaque et en même temps le diplôme, ce qu'on appelle le diplôme du label ou de la souscription. Et
ils sont nombreux, les bénéficiaires, hein,
alors,
en 2015
on aura 9 labels et on aura 13 souscriptions. Bon, peut-être on aura un peu plus de labels, enfin, peut-être un ou deux de plus si on arrive à les réaliser là. Enfin, voilà. Alors, la même manifestation de remise de labels a déjà eu lieu il y a 2 ans. Là, c'est les labels d'une année, quoi.
Oui. Voilà. Ce sont surtout quand même plutôt les communes, j'imagine, plus que les particuliers qui font appel à vous.
Alors non, c'est
non,
vraiment
c'est
non, non, parce que le travail d'origine de la Fondation du patrimoine, c'était vraiment pour les particuliers, donc qui n'avaient droit à aucune aide. Donc ça, c'est le côté label, et après effectivement le côté souscription pour ce qui est collectivité, dans la majeure partie des cas pour des églises.
Oui.
Mais les deux activités, si je puis dire, sont à peu près équivalentes. Donc pour vous donner une idée peut-être aussi donc de l'importance donc de la Fondation du patrimoine quand même. Bon, on vous disait tout à l'heure qu'effectivement l'État nous reverse les successions en déshérence. C'est quand même ça montre quand même qu'on est une organisation sérieuse parce que l'État ne distribue pas son argent à n'importe qui. Et donc une petite idée donc de ce qu'on de nos résultats, enfin de ce à quoi on a aidé en Eure-et-Loire. Donc depuis la fondation, enfin depuis 99 en Eure-et-Loire, on a eu environ 160 labels donc d'accordés. On a eu une centaine de souscriptions. Donc ça c'est plus récent parce que les souscriptions n'existent que depuis 2005, comme le disait Henri tout à l'heure, hein, puisque au départ la fondation n'agissait qu'avec des particuliers, donc c'est plus récent. Donc ça donne, pour vous donner un petit peu une idée, on parlait tout à l'heure aussi effectivement que ça nous permettait de faire travailler des artisans, donc de participer à la...
la vie économique.
À la vie économique, voilà. Donc en 2015, la région centre, pour ce qui est souscription, donc, a quand même récolté 900 000 euros. Donc c'est plus que tous les autres sites de crowdfunding qu'on peut trouver sur Internet, où c'est quand même une somme assez conséquente, hein, en 2015. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est ça, les chiffres à peu près,
oui.
Hein, c'est de 200...
Oui. Et voilà, en Eure-et-Loire, oui, pardon.
En Eure-et-Loire, oui.
En Eure-et-Loire, on a collecté, disons, la même somme, environ 980 000 euros,
oui. Depuis que les
souscriptions existent. Alors, ce que je voudrais vous rappeler, c'est qu'on a quand même fait 155 à 160 labels fiscaux, ce qui représente 7,7 millions de travaux. Et vous parliez en termes d'emplois, c'est 230 emplois créés ou conservés.
230 emplois créés ou conservés. Donc,
voilà.
Participer à la sauvegarde de l'emploi.
Ouais.
Qui n'est
nous
pas
avons fait aussi 6 labels non fiscaux, qui représentent 61 000 euros environ, 161 432. Et en souscription, nous avons 99 souscriptions. On va fêter certainement la centième à la remise des diplômes au mois de novembre, le 7 novembre. Et ça représente 15 millions de travaux, soit 462 emplois. Voilà. Donc on a bien recueilli ce que je vous disais tout à l'heure, 980 596 euros depuis qu'on existe. Le montant moyen des dons, 300 euros. Parce que les dons, on a des petits dons, mais on a aussi des gens qui mettent des sommes relativement importantes. Cette somme donc, est donc déductible à 66% de leurs impôts. Et si la personne est à l'ISF, c'est 75% de déductibilité, ce qui n'est pas rien. Et il y a des gens qui mettent, enfin, qui souscrivent des sommes relativement importantes.
On vous félicite. On arrive au terme de cette émission, excusez-moi, Henri et Léa, on aurait sûrement beaucoup d'autres choses à dire, mais voilà, le temps nous est compté en radio. C'est comme ça, on donne rendez-vous aux gens, donc c'est le 7 novembre, c'est au Musée des Beaux-Arts de Chartres,
hein, voilà, oui.
Pour la remise des labels, c'est l'occasion de faire votre connaissance aussi, mm-hmm. Pour les particuliers qui auraient des biens à faire valoir. Un grand merci encore à vous.
Merci à vous.
Et merci à Simon à la technique.
Merci. Au revoir.